Chères auditrices et auditeurs, c'est Régis de Parlons Pratique. L'épisode que vous allez écouter est dédié à l'Anthropocène. La qualité sonore n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais l'enregistrement à distance vous assure un bilan carbone bien meilleur. Bonne écoute!
Extra classe.
Aujourd'hui, Régis, nous parlons d'anthropocène, un mot que vous avez peut-être déjà entendu. C'est un concept scientifique récent qui entre progressivement dans le champ de l'éducation. Nous allons le définir plus précisément avec nos invités. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il implique de prendre en compte l'impact de l'être humain sur toute la biosphère et pour l'ensemble des générations à venir.
Quand on sait que former un citoyen responsable prend plus de temps que celui qui nous est imparti pour le changement climatique, on peut se dire que c'est un sacré défi pour tous les éducateurs.
L'éducation au développement durable est-elle une réponse à la hauteur de l'enjeu? Quelle approche pédagogique adopter avec ses élèves?
Bien au-delà de l'éducation au climat ou des éco-gestes, nous allons demander à nos invités ce que cette notion d'anthropocène peut changer dans les missions de l'école et dans les pratiques de classe.
Et avec nous pour répondre à nos questions, Jean-Marc Lange, spécialiste de la didactique de l'EDD, et Philippe Frassetto, enseignant en CE2.
Jean-Marc Lange, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur des universités, spécialiste de la didactique des éducations à la responsabilité sociétale en lien avec les sciences de la nature, et vous êtes directeur adjoint du LIDERF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation de l'université de Montpellier, c'est bien ça?
Tout à fait.
Philippe Frassetto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles à Bastia, en Corse, et vous avez notamment créé avec vos élèves de CE2 le MOOC « Soyez polis avec l'atmosphère », et puis vous faites aussi beaucoup d'autres choses dont vous allez pouvoir nous parler.
Oui, je confirme.
Alors pour commencer, je propose qu'on donne la parole aux enfants, justement avec un premier extrait de ce MOOC, un extrait qui provient de la vidéo intitulée « Le GIEC, c'est qui ?»
Le GIEC, c'est qui?
Pour mieux comprendre les mécanismes du climat et les effets du réchauffement, il existe un groupe de scientifiques internationaux qui travaillent ensemble.
Ce groupe de scientifiques s'appelle le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Le GIEC recueille et étudie l'ensemble des travaux de tous les chercheurs de tous les pays qui sont liés au climat. Les glaces, le bois, le sol, les océans, l'atmosphère.
Les scientifiques du GIEC comparent et vérifient ces différents modèles de climat de tous ces chercheurs, de tous ces pays, trouvent des résultats identiques ou pas.
Si l'ensemble des chercheurs trouvent des résultats identiques, ça veut dire que ces résultats sont fiables, qu'on peut compter sur eux.
Quand l'ensemble des chercheurs sont d'accord sur leurs résultats, ça s'appelle un consensus scientifique.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de doute sur leurs résultats.
Pour que les femmes et les hommes politiques qui nous représentent prennent leurs décisions en comprenant bien la situation.
Pour que tout le monde soit informé de ce qui peut arriver.
Alors il faut quand même que je décrive la scène aux auditeurs pour contextualiser un peu. Là, vous n'avez que l'audio, mais on a deux élèves là, de Philippe Frassetto, donc dans un décor digne de la forêt amazonienne, que ne renieraient pas d'ailleurs certains Jamy et Fred. Même les vêtements dont des élèves sont d'inspiration naturelle avec des imprimés fleuris, tout est très, très joli, très gai, très soigné. Et donc, on a donc un jeune garçon et une jeune fille qui ont... On l'entend largement bûcher sur ce sujet, sur le fond et sur la forme. Philippe, vous nous en direz plus sur ce fabuleux MOOC au cours de l'émission. Mais pour commencer, Jean-Marc Lange, puisque des enfants sont capables de comprendre et d'expliquer ce qu'est le GIEC, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et à nous cette fameuse notion d'anthropocène?
Alors oui, eh bien, je vais essayer de faire ça simplement en quelques mots. Donc, c'est une idée qui nous vient d'un géochimiste néerlandais qui s'appelle Paul Crutzen et qui a voulu définir une nouvelle période géologique dans laquelle on serait rentré et qui succéderait à l'Holocène, avec l'idée que l'impact de l'humanité se révèle et peut être lu sur l'ensemble des compartiments de la planète. Alors, voilà, et donc, s'il a pu proposer cette idée-là, c'est parce que bien avant, il y a un chercheur géochimiste, lui aussi, qui s'appelait Vernadsky, un chercheur russe au début du XXe siècle, qui a proposé l'idée de penser la planète en termes de compartiments, de différents compartiments. Voilà. Alors, il y a l'hydrosphère, la géosphère, la biosphère, l'atmosphère, et puis surtout, à la fin de son ouvrage, s'appelle Biosphère, il décrit l'importance de la noosphère, c'est-à-dire l'importance de l'activité humaine et de sa technique. Et l'idée que reprend Paul Crutzen, c'est que cette noosphère, donc cette activité technique humaine, impacte l'ensemble des autres compartiments et devient lisible et visible pour les géologues.
Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le lien entre l'Anthropocène, donc et cette notion scientifique, et puis ce qu'aujourd'hui on entend, son lien avec l'éducation. Quand on a préparé cette émission, pour ne rien vous cacher, on a trouvé que ce n'était pas si simple de comprendre la nuance entre le DD, l'éducation A, éduquer en Anthropocène. Est-ce que vous pouvez nous aider à clarifier toutes ces notions?
Alors, je vais commencer par... voilà, il y a depuis longtemps l'éducation à l'environnement, bon, qui a eu longtemps une approche naturaliste hein, des choses, c'est-à-dire ça consistait à connaître la faune, la flore, apprendre à respecter la faune et la flore, voilà, ça c'est la question classique d'éducation à l'environnement. Le développement durable, avec l'éducation au développement durable, nous dit autre chose. Elle nous dit que, en fait, c'est une question de développement. Donc, c'est une question qui ne peut pas être simplement pensée en termes environnementaux, mais aussi en termes de développement économique, de développement social et donc en termes politiques. En fait, c'est ça que veut dire l'éducation au développement durable ou en vue d'un développement durable. Et puis, alors, les éducations A, c'est encore autre chose. C'est un terme institutionnel qui renvoie à différents types d'éducation, mais comme la santé, l'environnement, le développement durable, etc. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que ce sont des éducations transversales qui mettent au cœur la question de l'éducation et qui va prendre comme objet les enjeux, en fait, les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. On peut résumer ça comme ça. Mais je ne sais pas si j'ai assez contrasté les différents domaines.
Bon, on va éclairer, on a tout l'épisode pour complètement éclairer cette notion. Philippe Frassetto, de votre côté, quand ou comment vous avez découvert cette notion? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'aborder toutes ces questions en classe?
Oui, parce que l'anthropocène est un phénomène anthropologique. Et donc, quand on en saisit la mesure et les impacts, on ne peut plus ni enseigner, ni consommer, ni vivre de la même façon. De toute façon, on est dans l'anthropocène, et donc enseigner en dehors de ce territoire serait être nulle part. Donc oui, ça change la façon d'enseigner. Mais après, quand on est avec des enfants, c'est une notion qui est complexe, et à mon avis, c'est presque des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut faire déjà comprendre ce que recouvre le mot évolution, parce que l'anthropocène, c'est une nouvelle ère. Donc, elle se situe par rapport à une ère passée. Et donc, il faut avoir accepté cette réalité. Les choses changent et elles évoluent, hein, puisque l'anthropocène, elle se caractérise par un changement d'ère. Et bon, ça se traduit par une modification sensible de notre environnement. Une fois qu'on a intégré l'idée d'évolution, ce n'est pas si simple. Donc, avec des jeunes enfants, je crois là, il faut donner des repères sur les impacts, en expliquant comment les attitudes de chacun sont plus ou moins émettrices ou ont des impacts plus ou moins importants. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas d'être prescriptif ou culpabilisant, hein, surtout avec des enfants, parce que les pauvres, ils n'y sont pour rien, voilà, aujourd'hui en tout cas, mais de leur faire prendre conscience que les choix individuels ont un effet sur l'environnement au sens large. Voilà, donc, par exemple, pour faire un sweatshirt en coton, il faut 32 kilos de CO2. CO2 équivalent. Voilà. Peu de gens savent que quand ils prennent leur voiture, les traces qu'ils laissent dans l'atmosphère sont là pour 100 ans. Donc il faut bien expliquer ça. Une grande télévision, c'est plus de 500 kilos dans l'atmosphère de CO2, hein. Alors que de façon intéressante, monter aux arbres, faire du théâtre, jouer au foot, c'est zéro émission. En fait, ils ont été amenés à voir en fait que effectivement, alors à part le téléphone évidemment là ils sont accros. Justement, on a travaillé aussi là-dessus, mais sinon ils ont été amenés à voir qu'en fait ce qu'ils préfèrent faire, ça n'émet pas de CO2.
Alors, ces exemples que vous donnez, Philippe, ils sont notamment dans ce fameux MOOC, hein, le poids carbone d'un t-shirt. Comment vous en êtes venu justement à ce projet-là. On sait que l'Anthropocène fait partie des programmes. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour construire ce travail avec vos élèves?
Alors, bon, comme je disais tout à l'heure, la prise de conscience, hein, qu'on est rentré dans cette espèce de nouvel âge de l'humanité, hein. Chacun de nous est devenu un sujet planétaire. À plus de 7 milliards d'humains, ça peut sembler un peu diluer la responsabilité. Mais si chacun de nous est une partie du problème, chacun de nous est une partie de la solution. Donc, on est de taille à relever ce défi. C'était déjà le postulat de départ. Moi, j'avais travaillé sur le système de MOOC, notamment avec le CRI et les aventuriers, hein, puisque tu le sais, on avait échangé et travaillé ensemble à cette époque. Et donc, ce format de MOOC me paraissait intéressant parce qu'il permet le changement, enfin, virtuellement, il permet le changement d'échelle. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait, il est open pour toute la francophonie. Et c'est gratuit et chacun peut s'y connecter. Donc, ce système de MOOC m'intéressait. Moi, j'avais échangé avec Valérie Masson-Delmotte sur via Twitter sur comment est-ce qu'on pourrait imaginer et adapter les contenus des rapports du GIEC pour les scolaires. Donc, c'était une question qui était restée plus ou moins en suspens jusqu'à ce que je décide de me lancer. Donc, il a fallu vérifier qu'une plateforme en open source ça marche, que des partenaires me suivent. Et après, ben, je suis passé par la directrice via Valérie Masson-Delmotte, la directrice de la communication de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a lancé un appel aux chercheurs. Des chercheurs mentors m'ont rejoint. Et la question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans peut et doit savoir pour comprendre les questions climatiques? À partir de là, on a construit une espèce de cursus avec des controverses intéressantes entre les chercheurs, justement, celui qui était plutôt spécialiste des pollutions atmosphériques voulait mettre la pollution en tête, celle qui était plutôt spécialisée dans les questions climatiques disait non, on parle de climat d'abord, il faut comprendre l'effet de serre, on parle de pollution après. Enfin bon, le parcours est articulé, et après ça a été le travail avec les élèves.
Jean-Marc Lange, on voit que c'est un travail de vulgarisation scientifique, hein, qui a été fait dans le cadre de ce MOOC. On va en entendre plusieurs extraits par la suite. Ce travail de vulgarisation scientifique, est-ce qu'il est fait aussi au niveau des programmes d'enseignement? Et est-ce que l'institution, de manière plus générale, prend en compte ces notions? Comment est-ce qu'elle permet finalement de changer un peu d'échelle?
Alors, je dirais que ça dépend des niveaux scolaires aussi, que ce soit au primaire ou au second degré. Les programmes actuels ont été très impactés par les travaux et rédigés d'ailleurs en partie par les travaux de Michel Lussault, qui est un géographe français. Et il a rédigé tout ce qui concerne cette idée d'habiter le monde qu'on retrouve dans les programmes du primaire et aussi dans le second degré. Et cet habiter le monde, nous dit Michel Lussault, il est inadéquat. Et c'est lui qui engendre la question d'un changement d'air potentiel, hein, qui reste discuté chez les géologues, mais qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte en tant qu'humain, justement. Et cet habiter le monde de Michel Lussault, il faut le compléter avec, si on veut mettre en regard de l'Anthropocène, en reprenant, moi, une idée que je prends à Bruno Latour, qui est un auteur que j'aime bien, et qui dit, au-delà de l'habiter le monde qui n'est pas adéquat, c'est aussi le fait que le monde a changé. Et c'est ça que recouvre l'idée d'Anthropocène. Donc, on prend conscience que notre monde est en train de se transformer, de changer, et donc il faut apprendre à habiter, non pas simplement le monde, mais un nouveau monde, d'une nouvelle manière. Et c'est par ce constat-là, en fait, que le monde de l'éducation se trouve totalement interrogé, bousculé.
Alors justement, on va rentrer plus dans ce que ça peut changer du côté de l'enseignement, de ce qui se passe dans les classes. Et avant, un nouvel extrait donc des élèves de Philippe Fracetto qui nous explique cette fois-ci ce qu'est l'empreinte carbone.
Comprendre et agir, le poids carbone.
En fait, chacun de nous, petit ou grand, riche ou pauvre, nous émettons, nous envoyons des gaz à effet de serre.
Ils flottent dans l'atmosphère, partout autour de la planète.
Et ça chauffe.
Ce qu'une personne émet dans l'atmosphère,
c'est son poids carbone. On dit aussi empreinte carbone.
En fait, c'est la somme en kilos de ce qu'elle envoie dans l'atmosphère. Moi, j'ai dit envoyer, mais on dit émettre.
Le poids carbone de chaque personne est différent.
Eh oui. En fonction de nos façons de vivre, on laisse des traces plus ou moins importantes.
Ok, Mais ça ne nous dit pas comment on fait pour diminuer ce poids carbone.
T'inquiète, on y arrive.
On y arrive, nous dit cet élève. Il faut dire qu'on a affaire à des notions et des phénomènes complexes qui ne s'expliquent pas en juste quelques secondes. Et on voit aussi que ces notions complexes, elles vont nous demander d'envisager d'autres approches pédagogiques. Alors Jean-Marc Lange, éduquer au défi des limites planétaires, c'est complexe, donc c'est aussi un peu inquiétant. Est-ce que ce qui se fait actuellement dans les classes est à la hauteur des enjeux ?
Alors, il doit y avoir certainement hein, des cas particuliers qui sont à la hauteur des enjeux, hein, parce qu'en fait, les enseignants ont une créativité qui est importante. Hein, mais il faudrait aller regarder au cas par cas, mais est-ce qu'on peut dire globalement, a priori, ça serait que non. Parce que pour aborder la complexité de ces questions, parce qu'elles sont effectivement complexes au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à tisser ensemble, à relier ensemble, hein, c'est la pensée d'Edgar Morin, eh bien il faudrait avoir la capacité d'apprendre à relier tous ces éléments-là. Et le cloisonnement disciplinaire, en tout cas dans le second degré, s'oppose un peu à ces approches-là. Alors il y a d'autres modes à trouver, il y a effectivement des changements à apporter, mais ce n'est pas simple. Mais peut-être qu'on en reparlera. Quand je dis que ce n'est pas simple, hein, je n'oppose pas complexité à compliqué. Hein. On peut aborder la complexité de façon simple, mais en apprenant à relier les choses. Et c'est ça qui manque globalement, c'est ce que nous disent en fait les enquêtes hein, sur les jeunes, c'est qu'ils ne savent pas relier ces choses-là entre elles, parce que c'est découpé par des approches disciplinaires un peu trop cloisonnées.
Alors justement, Philippe, ça m'évoque plusieurs choses, ce que vient de dire Monsieur Lange. C'est il y a évidemment plus de cloisonnement dans le secondaire que dans l'élémentaire. On peut peut-être mieux décloisonner les choses. Et en préparant cette émission, vous nous aviez parlé aussi de ce fameux lien que les élèves ont fait eux-mêmes. Comme, je crois que vous aviez utilisé le terme de basculement ontologique des élèves pendant la conception du MOOC. Ils ont fait ce lien entre météo et climat, entre de la complexité de ce qu'ils pouvaient mettre en place au quotidien et ce que ça pouvait changer dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots autour de tous ces points-là?
Oui, alors en fait, le basculement du MOOC, il intervient... Moi, je ne suis pas parti avec mes élèves en leur disant « Vous allez voir, on va travailler sur l'environnement, on va sauver le monde ». C'était le chapeau du projet, c'était l'atmosphère, déjà. On a commencé à travailler tout doucement en étudiant le cycle de l'eau en profondeur, la photosynthèse, toutes notions d'ailleurs qui sont au programme. Hein. Et ensuite, on a commencé à avancer dans la climatologie, dans le chapitre 2, qu'est-ce que c'est que la météo, qu'est-ce que c'est que le climat, le temps court, le temps long, comment travaillent les climatologues avec le bois, avec les glaces, on a vu tout ça. Et ensuite, on a commencé à voir, toujours dans ce chapitre sur la climatologie, qu'en fait, bon, depuis 150 ans, la moyenne mondiale des émissions avait augmenté, on a compris pourquoi. Et c'est là qu'on commençait à apparaître les questions des élèves qui n'étaient pas guidés vers un projet EDD, mais vers un projet scientifique, parce que pendant toute la première partie, on a fait beaucoup d'expériences de manipulation, tout ça. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, l'histoire n'était pas écrite et qu'il y avait trois scénarios, enfin, il y avait plusieurs scénarios possibles. Et c'est vraiment une des vidéos que je préfère dans le MOOC, c'est cette idée de scénario. Un scénario, ça commence par « et si », en fait. Hein, ça renvoie d'ailleurs au dernier bouquin de François Taddeï, qui est « et si nous ». Et donc, à ce moment-là, ils ont compris que les choses étaient possibles, mais que ça dépendait de l'adulte, de l'attitude qu'allaient avoir les adultes dans les années qui viennent. Et ils en sont venus à dire, mais en fait, on nous dit « sois sage », et je leur ai dit, effectivement, on vous dit « sois sage », qu'est-ce que c'est qu'être sage ? Ben, être sage, évidemment, c'est regarder les différents scénarios et faire en conscience. Et c'est ce moment de bascule où à la fois ils ont été saisis, j'allais dire, pour forcer un peu le trait, par le vide abyssal, l'espèce de trou qu'il y a, qu'on ne voit pas, on ne travaille pas sur cette question suffisamment, qu'en même temps l'histoire n'était pas écrite, mais que tout était devant, et que voilà, c'est un moment de bascule, ouais. Parce que du coup, ça fait plus des gens qui s'engagent que des gens qui critiquent.
Donc en fait, vous êtes parti des savoirs, hein, et ce sont les savoirs qui ont amené à une prise de conscience chez vos élèves. Jean-Marc Lange, qu'est-ce que vous avez vu pour amener les élèves à cette prise de conscience, à ce raisonnement systémique, comme approche pédagogique qui fonctionne bien, ou quelles sont celles qui fonctionnent peut-être moins bien, mais peut-être allons vers celles qui seraient intéressantes à développer.
Oui, alors moi je commencerai pas par les savoirs, excusez-moi Philippe, après tout le mode d'entrée il peut être pluriel, hein. Mais ce qui fonctionne bien en fait c'est d'entrer dans ces problématiques-là par une question locale, un enjeu local qui se pose réellement en fait, hein, qui est appréhendable et qui est à la portée à la fois physique et puis intellectuelle, hein, des élèves. Et donc cet enjeu local, on va essayer de le comprendre par une démarche d'enquête en fait, hein, et l'enquête étant la grande démarche pédagogique des éducations A, hein, globalement. Et puis les savoirs, ils sont indispensables, hein, bien sûr, pour structurer la pensée. Hein. Et les élèves le réclament, ça aussi, de les aider à structurer leur pensée. Mais on va plutôt les convoquer, en fait, les savoirs au fur et à mesure pour éclairer. Donc les disciplines, à ce moment-là, on les pense en termes de contribution et non plus en mode d'entrée dans une problématique.
Et ça, dans le second degré, ce n'est pas le plus simple à faire parce que l'organisation institutionnelle, elle ne le permet pas nécessairement.
Voilà, alors ça, c'est ce que je dis, c'est assez facile à faire au primaire, enfin assez facile, hein, dans le sens où les conditions le permettent. Et puis, ça peut être fait aussi à l'université lorsqu'on a des plages suffisantes. Mais dans le second degré, oui, tout à fait, ça se heurte à l'organisation disciplinaire qui est trop rigide. Alors, qui est trop rigide, pas forcément parce que l'institution le demande, hein, mais ce sont des coutumes installées sur lesquelles personne n'ose revenir franchement, parce que la pédagogie de projet, elle a toujours existé, en fait, que ce soit au collège ou au lycée, mais ça a du mal à prendre sa place parce qu'il y a la compétition entre les disciplines, les équilibres entre disciplines, etc. Donc, c'est plus des habitudes ancrées que des difficultés matérielles ou institutionnelles qui s'y opposeraient, en fait.
Alors, vous parliez de projet local, Monsieur Lange, et je sais que ça fait écho, justement, à un autre projet de Philippe Frassetto qui fait du lien avec tout ça. Je vous propose juste qu'on écoute un troisième extrait du MOOC et on en arrive à ce côté local. Donc dans ce troisième extrait, on retrouve nos formateurs en herbe, en l'occurrence formatrices, parce que là, ce sont deux jeunes filles. Et c'est un extrait, cette fois, issu d'une vidéo qui traite des activités humaines et de l'évolution du climat.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis 150 ans?
Quand on brûle du charbon, du pétrole et du gaz, pour faire tourner des machines, pour chauffer ou pour se déplacer, on rajoute encore et encore des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Mais dans le futur alors, est-ce que la température va continuer à augmenter?
On ne peut pas le savoir.
Même les scientifiques, les spécialistes, ils ne savent pas?
Non, parce qu'il y a une chose que l'on ne sait pas encore.
Laquelle?
On ne peut pas savoir comment les humains vont se comporter dans le futur. Ça, personne ne peut le savoir.
Alors, voilà bien un paradoxe intéressant, hein, évoqué par ces jeunes et ces futures citoyennes, des adultes en responsabilité, on l'a dit, pas toujours sages, pas toujours à la hauteur des aspirations de cette jeunesse, même très jeune parfois, et en même temps, ces élèves de CE2 qui ont bien conscience que l'avenir passe par eux, on l'a dit tout à l'heure. Philippe Frassetto, pour concilier justement ces grands enjeux qui dépassent les enfants de cet âge, hein, côté anthropocène, mais même nous, j'ai envie de dire, quelles actions concrètes, transformatrices, à hauteur d'enfants et du quotidien? Je crois que vous allez sortir de votre chapeau un autre projet qui a articulé le local et le côté anthropocène, quelque part.
Mais c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec la remarque qui a été faite tout à l'heure sur l'entrée par les savoirs, qui n'est pas forcément la bonne. Nous, notre perspective était double. Enfin, moi, ma perspective était double. C'est-à-dire qu'il fallait que je forme les élèves de ma classe pour qu'ils forment d'autres élèves via un MOOC et pour traiter de questions qui ne sont pas des questions locales, bon, qui sont des questions globales, puisque l'atmosphère ne connaît pas de frontières, excusez la rime. Et donc, on a travaillé là-dessus. Ceci dit, c'était un projet hors sol, quelque part. C'était un projet via des écrans, quelque part. Et c'est vrai que ça m'a amené pour cette année à faire radicalement l'inverse, puisque je ne travaille pas sur l'atmosphère, mais sur le sol, et que je ne travaille plus avec des ordinateurs, mais dans la petite forêt qui est à côté de l'école. Où là, on est sur des expériences concrètes et on convoque les savoirs, mais avec les mains dans la terre. En plantant, en apprenant à bouturer, à semer, en aménageant un espace. Mais je suis revenu, j'ai atterri, on va dire, au sens latourien du terme. Et sur la question de savoir, sur l'engagement des enseignants, très peu d'enseignants sont engagés. Voilà. Il faut bien le dire. Peut-être que dans le vivier ou le terreau, pour filer la métaphore, des enseignants qui travaillent sur ces questions, qui ont pris conscience de cette nouvelle donne anthropologique, peut-être qu'on a là le terreau de nouvelles pratiques pédagogiques presque révolutionnaires, parce qu'il s'agit de changer les priorités, en fait. Quelles sont les priorités? L'accord du participe passé, ou bien faire la différence entre un chêne et un olivier. Je crois que c'est voilà, une question de priorité beaucoup, qui doit changer. C'est un projet pour les élèves et pour les gens du quartier. Ce n'est pas quelque chose qui est adressé, qui va passer par les réseaux. Au contraire, moins il y a de journalistes, mieux c'est. Et moins, voilà, faut que ce soit approprié par des gens sur un sol. Et c'est probablement par là que les choses vont passer.
Oui, parce qu'il y a un aspect aussi social dans ce projet. Vous n'êtes pas que sur l'environnement, dans une acception un peu stricte.
Oui, il y a un côté social. Moi, je suis dans un quartier pas très mixte, en fait, puisque sur mes 24 élèves, j'en ai 22 qui sont d'origine étrangère, qui viennent principalement du Maghreb. Donc, les bâtiments, le quartier, tout ça. Et à côté de cette petite école, il y a un espace vert qui est juste incroyable, que je ne connaissais pas. On m'avait dit que c'était dégueulasse, que c'était dangereux, qu'il y avait des déchets partout. Ça, c'était vrai. Et en fait, on s'est approprié cet endroit tout doucement avec les élèves en signant une convention parce que c'est propriété de l'hôpital de Bastia. Enfin, on a réussi à utiliser cette aire pour travailler. Et l'idée, c'est d'expliquer à ces enfants qui viennent d'ailleurs que l'unité du quartier, c'est là qu'ils sont chez eux, en fait, aussi. Plus que n'importe où au Maroc, certainement. Et plus chez eux aussi que d'autres Corses de souche, entre guillemets, si ça ait un sens, qui arriveraient d'une autre région de Corse dans le quartier. Et travailler sur cette question de l'identité du quartier, mais en relation avec la terre, et le vivant. Donc ça, c'est plutôt le projet de cette année. C'est un peu un contrepoint de ce que j'ai fait l'an passé.
Jean-Marc Lange, on sent que finalement, cette notion d'anthropocène, c'est un sujet politique, c'est éthique, c'est loin d'être seulement scientifique. Et on sait à quel point la posture des enseignants elle peut être compliquée dès qu'il y a ce mot de politique ou d'éthique. Et quelle posture de neutralité ils devraient adopter? Est-ce que c'est une notion mal comprise? Est-ce que ce devoir de neutralité, il entre en jeu ici ou on est complètement dans autre chose?
Alors oui, les enseignants ont tendance à confondre deux choses en fait, ce qui est le politique et la politique. Le politique, c'est comprendre la dimension de l'implication dans la cité. Hein. Police, ça veut dire gérer la cité. Hein. C'est ça l'origine du mot. Et entre le politique et être dans une démarche partisane, la neutralité a du mal à être comprise, à trouver sa place, en fait, hein, dans cette approche-là. Il y a cette tradition très fortement ancrée, et avec raison, hein, de la neutralité républicaine chez les enseignants. Et donc, effectivement, ils ne doivent pas être partisans. Mais une fausse neutralité qui serait d'ignorer les enjeux sociétaux de l'époque dans laquelle on est, c'est finalement être partisan à sa manière, en fait. Donc la neutralité telle qu'elle est trop souvent admise est une prise de position politico-technicienne, en fait. Voilà. Et donc il faut assumer la dimension politique au sens noble du terme, avec un grand P, et pour reconnaître que derrière ce qui se passe, en fait, ce sont des choix de société, ce sont des choix de développement, dans lesquels tous les citoyens sont concernés, en fait. Et ça, c'est une barrière qui est très compliquée à faire comprendre, en fait. Hein. Il faut être impartial, ce qui n'est pas la même chose que d'être neutre. En tant qu'enseignant, on n'est effectivement pas là pour choisir un modèle de société ou un modèle ou une orientation politique, mais on doit faire comprendre que ces enjeux, que ce soit le climat ou autres questions liées à l'anthropocène, ce sont bien des enjeux politiques au sens ancien du terme.
Philippe Frassetto, vous déploriez un petit peu que les enseignants soient peut-être pas suffisamment engagés. Vous, finalement, c'est un engagement personnel que vous avez eu d'abord et puis que vous avez traduit dans votre pratique professionnelle. Mais en même temps, vous n'étiez pas forcément à l'aise non plus avec l'idée de paraître militant dans votre posture d'enseignant.
En fait, est-ce qu'il est possible d'être neutre? En fait, je crois pas. Bon, moi, je suis engagé dans l'enseignement des questions climatiques, ce qui n'est pas neutre. Voilà, par exemple, on voit dans le quatrième chapitre, on donne des repères macro sur les bilans carbone. Donc, sur la moyenne des émissions mondiales, les émissions des pays riches, les émissions des pays pauvres. Et si on regarde de plus près, la moyenne française, elle est environ de 10 tonnes d'émissions de CO2 équivalent par personne et par an. Mais si on regarde un peu plus près, on voit que les 10% les plus pauvres en France émettent 800 kilos par an. Et les 1% les plus riches émettent 56 tonnes. Donc, c'est un écart qui est de 1 à 70. C'est un fait. Il pose la question de la justice climatique. Donc, ce n'est pas neutre d'en parler, mais ce n'est pas neutre de la passer sous silence. Certains enseignants n'abordent pas des questions climatiques. Est-ce que pour autant ils sont neutres? Je rejoins vraiment ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ramener la question climatique au débat sur le nucléaire, c'est neutre? Non. Donc, une fois qu'on a admis l'impossibilité d'une neutralité absolue, il appartient à chacun de placer le curseur. Est-ce que j'essaye d'être le plus neutre possible ou est-ce que j'assume d'être pas neutre du tout? Et alors moi, dans l'exercice de mon métier, je pense que dans ce continuum de relatif et pas absolu, je crois qu'il faut essayer d'être le plus neutre possible. Parce qu'il n'est pas souhaitable que tous les gens qui aient des opinions se mettent à les distiller à leurs élèves en classe. On voit bien que ça pourrait pas marcher. Donc une neutralité relative, mais ça n'exclut pas de s'appuyer sur des faits scientifiques et de hiérarchiser les priorités. Voilà.
Donc des enseignants engagés pour des élèves qui s'engagent, on peut peut-être dire quelque chose comme ça. On arrive au temps d'inspiration. On vous a demandé à chacun de réfléchir à une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et auditrices. Je commence avec vous, Jean-Marc Lange.
Oui, alors je pensais à un petit ouvrage qui a été écrit par un collègue suisse qui s'appelle Daniel Curnier et qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Pour une école écologique », écho en deux mots, donc dans lequel il explique, il décrit, c'est à partir d'un travail de thèse, hein, de recherche qu'il a mené, et donc l'école doit entrer dans une nouvelle logique en fait, hein. C'est un peu ça cette idée-là, donc ça serait un premier repère, et pour ceux qui ont envie de s'intéresser à la question de l'anthropocène, il y a un documentaire qu'on trouve facilement sur YouTube, qui a été diffusé par Arte, qui s'appelle « L'homme a mangé la terre ». Et c'est un documentaire, c'est le premier documentaire qui a un point de vue sur l'anthropocène, en fait. Il a un point de vue partisan, donc ça peut être un point de départ qui a discuté, à explorer. C'est pas à prendre au premier degré parce qu'il est très partisan, ce documentaire. Mais en tout cas, c'est une base qui illustre bien la complexité, le fait que tous ces éléments sont reliés. Entre eux. Et donc, on entre en plein dans la question du développement et de sa durabilité, en fait. Voilà de références que j'aurais envie de donner.
Merci, on les retrouvera dans le descriptif du podcast, Philippe.
Alors, moi, je recommanderais l'Atlas de l'Anthropocène aux presses de Sciences Po, qui est vraiment magnifique. Voilà, magnifique. L'iconographie, enfin, c'est très très documenté avec une postface de Bruno Latour, c'est vraiment super intéressant. Edgar Morin, enseigné à vivre aussi. Le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, ça peut être utile. Les bouquins de François Taddeï, tous, et le dernier en particulier. Et après, je terminerai justement par François Taddeï, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et quand il est venu en Corse, le Dazen, le directeur académique, lui a demandé quelles sont, d'après vous, les trois compétences les plus importantes à transmettre à nos élèves. Et donc, il a répondu être empathique, collaborer et relever des défis. Et donc, ça fait un moment que je tourne autour de ces trois notions en me disant, est-il possible d'aller plus loin? Est-ce qu'on peut démonter ce triptyque? Et aujourd'hui, ben, j'ai envie d'ajouter, en fait, être empathique avec le vivant, collaborer avec le vivant et relever les défis de l'anthropocène. On dira que si on va comme ça, peut-être que ça pourra aller. Et puis, un dernier truc, peut-être sur les questions d'éducation, on voit avec effarement qu'en fait, c'est peut-être que maintenant, il faut commencer à travailler l'adaptation aussi. Et plus seulement l'atténuation. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus.
Eh bien, on va tous réfléchir là-dessus. On encourage nos auditeurs à réfléchir là-dessus. Pour conclure cette émission, on vous encourage, au-delà de toutes ces ressources que vous allez retrouver dans les notes qui accompagnent cet épisode, les travaux de Monsieur Lange et le fameux MOOC « Soyez polis avec l'atmosphère » de Philippe Frassetto. Ça vaut vraiment le coup. Allez jeter un œil, inscrivez-vous. C'est vraiment extraordinaire. Pour conclure, j'ai envie de dire qu'on a appelé cette émission « Ce que l'anthropocène fait à l'école » et qu'on aimerait bien en faire une autre dans quelques années, qui serait plutôt ce que l'école a pu faire à l'anthropocène pour inverser la tendance. Soyons fous. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Ce que l'anthropocène fait à l'école, un épisode de Parlons Pratique préparé et animé par
Régis Forgione
et Hélène Audard. Montage et mixage,
Simon Gattegno.
Coordination de production,
Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
Directrice de publication,
Marie-Caroline Missire.
Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
Une production Réseau Canopée 2022.
Extraclasse.